Perception, conscience et attention. Voici venu le moment un peu philosophique. Hop, 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 ne fuyez pas. Je vous vois déjà passer à la piste suivante pour voir si le titre du prochain chapitre commence par « Attention ». Vous avez remarqué ces ruptures quand je vous interpelle ? J'utilise un stratagème pour mettre du rythme. Je vous fais prendre conscience que nous sommes dans une conversation, plutôt dans un monologue où j'essaie d'anticiper vos pensées et vos réactions. Quand je vous interpelle par le « hop 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 », vous prenez conscience que je m'adresse directement à vous. La conscience active, celle où nous sommes capables de nous entendre penser, existe dans l'attention et disparaît dans l'inattention, ou plus exactement dans le manque d'attention. La capacité dont le livre fait l'objet est un rouage qui entraîne celui de la conscience de l'instant et celui de la lucidité sur ce que l'on vit. Sans l'attention, nous ne serions que des machines à réagir musculairement et intellectuellement. Exercice pratique. Je suis devant vous avec un ballon. Si je vous envoie le ballon sans vous prévenir, vos muscles vont agir pour l'attraper ou pour l'éviter. Je décide en fin de compte de ne pas envoyer le ballon. Je le pose. Je ne suis pas venu pour jouer, mais pour vous annoncer une nouvelle qui ne va pas vous plaire. Je viens vous dire que votre loyer va augmenter. Vos pensées automatiques vont vous faire commencer à pester contre votre propriétaire, avant même de savoir si ce que je viens de dire est vrai. Après tout, qu'est-ce que j'en sais, moi ? Ou quel est le montant ? Une augmentation d'un centime est quand même une augmentation, mais moins agaçante qu'une augmentation de 50 euros. Ou les raisons de cette augmentation ? Parce que vous allez bénéficier d'une piscine chauffée, par exemple. L'attention aide notre esprit à avoir conscience d'une chose précise plus qu'à avoir conscience de soi-même. Réécoutez la phrase. Elle est un peu complexe. Je vous avais dit que c'était l'instant philosophique. Voici la dernière indigestion de mots avant de reprendre un échange plus fluide. Puisque la conscience peut être définie comme étant la perception de sa propre existence, alors l'attention peut être définie comme la partie de notre expérience, de notre existence, sur laquelle on a choisi de se concentrer. En conclusion, et par extension, la concentration est l'énergie que l'on a délibérément choisi de mettre sur cette partie de notre expérience. Ouf ! On peut reposer nos méninges maintenant. J'ai voulu vous parler de ces fondamentaux dès la première partie, car l'attention est un bien précieux, dont nous avons peu conscience dans l'instant. Rares sont les personnes qui, comme vous, vont s'y intéresser au point d'écouter un ouvrage entier sur le sujet. Là où le bât blesse, c'est qu'il faut soigner son attention pour avoir conscience de son existence. C'est un cercle vicieux. Le serpent se mord la queue et seule l'expérimentation peut nous permettre, nous les humains, de comprendre sa vraie valeur. C'est maintenant que nous raccrochons les wagons avec le titre de ce chapitre. La perception est le meilleur exemple pour illustrer ces réflexions sur la conscience. Prêt à stimuler votre imagination pour un nouveau jeu de rôle ? Bien. Je lance un sortilège de téléportation et vous êtes maintenant à l'anniversaire d'un ami. Il y a une vingtaine de personnes réunies dans la pièce principale de son domicile. Vous entendez de la musique et un brouhaha propre à ce genre d'événement. Vous êtes en train de discuter avec votre ami Michel. Vous adorez Michel. Il a toujours un truc marrant à raconter et ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas parlé. Votre cerveau va, comme par magie, isoler les autres sons de la pièce pour que vous ne perceviez que la voix de Michel afin d'être focus sur la conversation. Vous n'êtes plus que tous les deux, Michel et vous. Ce processus de filtre est fait par votre mental de manière automatique. Pendant que vous discutez, un autre groupe se trouve quelques mètres derrière vous. Quelqu'un vient de prononcer votre prénom dans une phrase. Votre filtre mental laisse passer cet unique son pour que vous ayez conscience de cette conversation au loin. C'est juste assez pour que vous soyez toujours concentré dans votre discussion avec Michel, tout en étant un peu perméable pour savoir pourquoi on parle de vous un peu plus loin. Vous avez peut-être déjà expérimenté ce super pouvoir du filtre audio en étant assis dans un restaurant, tout en étant capable de suivre la discussion d'une table se trouvant loin de vous. C'est assez étonnant quand on y pense. on a réellement l'impression que le reste de la pièce a diminué son volume sonore. Ce système de filtre, qui fait partie de l'attention sélective, est vulgairement appelé en psychoacoustique l'effet cocktail party. En 1953, le chercheur Colin Cherry a fait les premiers tests consistant à diffuser des sons différents dans les deux oreilles des volontaires participant à l'étude. Ces derniers ne devaient se concentrer que sur l'une ou l'autre de leurs oreilles, à la demande du chercheur, pour ensuite restituer le sens de ce qu'ils avaient entendu dans l'oreille en question. Le seul moyen de comprendre le sens de ce qui était diffusé était de ne plus entendre ce qui était diffusé en simultané dans l'autre oreille. En 1959, Neville Morey va plus loin en incluant à sa recherche le principe de perméabilité. Pour réussir cette prouesse, il va reproduire l'expérience d'origine, mais en diffusant parfois des sons significatifs, comme le prénom du participant, du côté où le volontaire ne doit prêter aucune attention. C'est ainsi que l'on a pu constater et quantifier notre capacité naturelle et automatique à créer des filtres de perception tout en laissant filtrer des informations qui peuvent nous être utiles. Des recherches similaires ont été faites par d'autres chercheurs sur le domaine de la perception visuelle ou sensitive. En 2016, Skoda avait fait l'une des publicités les plus intelligentes que j'ai pu voir dans ce domaine. Une Skoda Fabia bleue était au centre de l'image, garée dans la rue devant des bâtiments. Les téléspectateurs regardaient cette scène peu agitée. Aucun mouvement si ce n'est une passante qui traversait l'écran. Le spot était entrecoupé de flashs noirs réguliers et rapides. Il n'était pas placé par hasard. Il symbolisait le clignotement naturel des paupières. Vous n'en prenez pas conscience, mais régulièrement vous êtes dans le noir durant la fraction de seconde qu'il faut à vos paupières pour humidifier votre cornée. C'est quelque chose de tellement banal que vous avez un filtre mental pour ne plus le percevoir. Dans la publicité de la Skoda Fabia, les éléments du décor changeaient subtilement et légèrement à chaque coupure noire à l'écran. La couleur d'une façade, un panneau en plus sur la route, un vélo contre un mur. Au bout de 45 secondes, la seule chose à l'écran qui n'avait pas changé depuis le début de la publicité était la voiture bleue au centre. Et personne n'avait vu qu'il y avait eu toutes ces modifications avant que la vidéo elle-même nous le fasse remarquer, en nous montrant un avant-après édifiant. Manipuler la direction de votre attention en utilisant la connaissance de vos perceptions et de vos filtres, c'est exactement ce que tente de faire le marketing. Les marketeurs ont pour mission de créer une stimulation visuelle ou auditive assez forte pour casser vos filtres, pour se saisir de votre attention et essayer de vous faire percevoir un message. Le but ? La vente d'une marque et de ses produits. Comme ils n'ont que peu de temps pour cela, ils vont souvent inclure le message directement dans la forme du stimulus. Par exemple, en utilisant une mascotte publicitaire véhiculant les valeurs de la marque. Un tigre pour vendre des céréales enverra à votre cerveau un message sur l'apport en énergie des céréales et à quel point en consommer rend fort. Si je veux que vous me perceviez pleinement, je dois diriger la majorité de votre attention sur moi. À l'inverse, tant que vous ne portez pas d'attention sur un point précis, alors ce point n'existe pas dans votre perception. Vous avez probablement des chaussures aux pieds. Dirigez votre esprit sur les sensations de vos pieds avec vos chaussures. Ressentez le contact de vos orteils les uns contre les autres. Êtes-vous à l'aise? Un peu serré? Avez-vous chaud ou froid? Peut-être identifiez-vous de légères douleurs ou un fourmillement. Il y a quelques secondes, ces sensations au niveau de vos pieds n'existaient pas pour vous, car sans votre attention, vous ne pouviez pas les percevoir. Le détournement d'attention, le secret des magiciens. Vous le savez depuis toujours au fond de vous, un magicien, c'est juste un type en costard qui cache des trucs dans ses manches, qui va prendre son chapeau pour faire apparaître un lapin et surtout qui ne peut pas s'empêcher de mettre des danseuses sur scène dans le but de détourner notre attention. Vous le savez car ce sont des clichés et les clichés ont la vie dure. Pourtant, si vous y réfléchissez, Est-ce que ça ne fait pas bien longtemps que vous n'avez pas vu de magicien faire apparaître un lapin d'un chapeau ? Pour être transparent avec vous, je crois que je n'ai jamais vu un magicien faire ce tour en dehors d'une bande dessinée. Une légende urbaine explique quand même que le détournement d'attention serait le grand secret des illusionnistes. Ce qui est étonnant pour un secret, puisque tout le monde semble être au courant. La définition d'un détournement d'attention est de stimuler la vigilance d'une personne pour l'obliger à réagir de manière urgente à une nouvelle stimulation visuelle ou auditive. Pourtant, je ne suis pas très à l'aise avec ce terme de détournement d'attention. Cela signifierait que les mentalistes utilisent le détournement d'attention psychologique et les magiciens le détournement d'attention visuelle. Or, j'ai l'impression que détourner l'attention d'une personne veut dire pointer mon doigt dans la direction qui lui est opposée en lui criant « Attention, un éléphant derrière toi !» Et je ne crois pas trop m'avancer en affirmant qu'il est rare qu'un tour de magie utilise ce stratagème. Les magiciens ont beaucoup de noms. On les appelle illusionnistes, prestidigitateurs ou mystificateurs, mais ils se font également appeler manipulateurs, pour mettre en avant leur dextérité. Un manipulateur manipule. C'est logique. C'est également ce que font les magiciens avec l'attention de leurs spectateurs. Ils la manipulent en douceur pour la déplacer naturellement à l'endroit où ils le souhaitent. L'endroit qui les arrange et qui va leur permettre de créer l'illusion d'une situation impossible. Ce qui va suivre va vous demander un peu de visualisation mentale. Mais le jeu en vaut la chandelle. Comme promis au début de ce livre audio, je vais soulever légèrement le rideau d'un secret de magicien. Est-ce éthique de révéler un secret ? Je répondrai à cette question à la fin de cet aparté. Pour vous aider à suivre ce que je vais expliquer, vous pouvez faire les gestes que je vais décrire avec vos mains. Si je tiens visiblement une pièce dans le creux de ma main droite, et que celle-ci laisse tomber la pièce dans le creux de ma main gauche. Puis que je ferme le poing de ma main gauche, mais qu'en l'ouvrant, il n'y a plus la pièce. Alors il y a de grandes chances pour que cette pièce n'ait jamais quitté ma main droite. Fin du secret ? Pas tout à fait. La dextérité va me permettre de vous donner l'illusion visuelle que la pièce tombe réellement de ma main droite dans ma main gauche. Les gestes, le rythme et la persistance rétinienne vont devenir des atouts pour m'aider à commettre mon divertissant méfait. Si en plus, je fais ce mouvement à la hauteur de mon torse, en laissant redescendre très lentement ma main droite vide vers le bas, pendant que ma main gauche, en poing fermé, monte à la hauteur du visage rapidement, alors c'est parti, je commence à manipuler votre attention. Je sais que votre esprit est attiré par ce qui bouge et par ce qui monte. Vos yeux ne vont pas pouvoir s'empêcher de suivre la main qui monte, car le mouvement est prévu pour diriger votre attention. Vous étiez focalisé sur les mains lors du soi-disant échange de mains, et j'ai amené votre focus à suivre la main gauche plutôt que la main droite lorsque les mains se sont séparées. Votre attention n'a pas été détournée. Il y avait un choix à faire dans la continuité, droite ou gauche, et je l'ai juste dirigé dans la direction qui favorise l'illusion finale. Détaillons encore un peu plus. Si mon propre regard suit la main gauche, celle censée avoir la pièce de monnaie, comme si moi-même j'étais intimement convaincu de regarder la main qui contient la pièce, alors je renforcerai encore plus votre conviction inconsciente que vos sens doivent être dirigés dans la direction que suit mon regard pour ne rien rater. Voilà. Vous connaissez un secret de magicien. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau ? Lorsque l'un de ces artistes fera disparaître une pièce de cette manière devant vous, votre attention se fera quand même avoir. Preuve qu'il s'agit d'une manipulation de votre attention et non pas d'un détournement d'attention. Si c'était un détournement d'attention, le fait de vous révéler le secret vous ferait vous méfier. Vous regarderiez l'autre main puisque vous avez été initié. Comme la séquence dirige votre attention en la prenant quasiment par la main, votre esprit critique n'a aucune décision à prendre. Et vous ne vous souviendrez d'avoir écouté cette description dans ce livre audio qu'au moment où les doigts de l'artiste s'ouvriront pour révéler qu'il n'y a rien dans sa main. Votre regard se précipitera alors sur l'autre main, un peu plus bas, qui sera vide elle aussi. Trop tard. Le magicien aura eu un coup d'avance sur vous et aura déjà pris le temps de faire disparaître la pièce de l'autre main également pour faire disparaître sa pièce encore ailleurs.